Bien, alors on va continuer ce qui concerne le réveil morave. Donc on avait vu ce qui concernait la création de la communauté d'Ernut. Et donc en 1727, après 5 ans de mariage, le couple Zinzendorf a un fils qui s'appellera Christian Renatus, et qui, beaucoup plus tard, donc, sera le second de son père. C'est alors que Zinzendorf se trouve confronté à un problème. En effet, il est un laïc, en fin de compte. Et très vite, n'est-ce pas, le fait qu'il ne soit pas ordonné, dans le cas de l'Église luthérienne, représente pour lui un handicap. Alors, il va essayer pendant un temps de faire avec cette situation-là. Et c'est ainsi que, à partir de cette date, il va être amené à tenter de structurer la communauté d'Ernut. Et, par exemple, petit à petit, c'est très intéressant de voir une espèce de règle née, n'est-ce pas? Au début, il n'y avait pas. Et puis finalement, devant les nécessités de qui naissent, il faut donc un minimum d'ordre, il faut un minimum de structure, et par conséquent, il y a des espèces de règles qui se mettent en place. Par exemple, la règle prévoit que les membres de la communauté doivent s'abstenir de toute dépense excessive ou inutile. C'est très intéressant, ça, comme règle, n'est-ce pas? C'est un petit peu, finalement, ce que nous pensons en ce qui nous concerne aussi. Et puis, bien sûr, une telle situation va provoquer aussi des calomnies de la part de gens de l'extérieur, des attaques, tant de la part des luthériens de Saxe que des catholiques d'Autriche. Et très vite, la communauté d'Ernut va se trouver sous le feu croisé de ces attaques-là. L'empereur d'Autriche, en particulier, va faire pression sur le prince électeur de Saxe pour, en quelque sorte, faire disparaître la communauté, tout simplement. Et l'empereur d'Autriche, qui en principe, n'est-ce pas, est le suzerain de l'électeur de Saxe, lui ordonne de faire vendre le domaine d'Ernut et d'exiler, en quelque sorte, Zinzendorf. Le prince électeur de Saxe, heureusement, ne va pas obtempérer à cet ordre de l'empereur. Il tergiverse, il ergote, il gagne du temps, finalement, une dini wini non, ce qui permet justement à la communauté de subsister. Et puis, en fin de compte, le grand électeur meurt, ce qui est une manière élégante pour lui de se tirer du problème. Et c'est alors que Zinzendorf, devant cette situation, se demande s'il ne devrait pas essayer de passer un diplôme de théologie pour être ordonné officiellement, ce qui ferait, si vous voulez, que là, il serait, ne dépendrait plus des autorités politiques, mais il dépendrait des autorités religieuses, donc de l'Église luthérienne officielle. Et il va consulter son cousin, qui est le prince héritier du Danemark, qui lui apprend, à sa grande stupéfaction, qu'un complot se trame contre lui, après la mort du grand électeur, visant justement à la destruction de la communauté. Et par conséquent, son cousin, le prince de Danemark, ne peut pas véritablement l'aider. Alors là, Zinzendorf comprend qu'il ne lui reste plus qu'une seule solution, c'est de passer un diplôme de théologie. Et lui, le comte de Zinzendorf, qui est déjà un homme mûr, n'est-ce pas, eh bien, va redevenir un simple étudiant en théologie dans une des théologies des écoles de théologie de Tübingen. Il prépare donc son diplôme et il est brillamment reçu après avoir donné une prédication sur le thème la foi. Là, tout le monde le félicite pour la manière dont il le fait. Et c'est ainsi que Zinzendorf est donc officiellement intégré dans l'Église luthérienne. Et pourtant, en avril 1736, le consistoire luthérien de Saxe veut l'expulser. Ses écrits sont interdits aux laïcs, comme des écrits mauvais, c'est assez extraordinaire, et lui-même est interdit de prédication. Alors, Zinzendorf réagit heureusement. Sa position de gentilhomme lui donne des possibilités qu'un autre dans sa situation n'aurait pas eues. Et il se rend donc auprès du roi Frédéric Guillaume en octobre de la même année. Et là, il a trois grandes rencontres avec lui en tête-à-tête où il lui parle vraiment en cœur à cœur, du fond du cœur. Et le roi, finalement, décide d'enquêter à fond. Et il se rend lui-même sur place pour voir exactement de quoi il retourne. Et ce qu'il voit, eh bien, le convainc. Et alors là, il prend à fond le parti de Zinzendorf et il va le défendre. Et il se trouve que le pasteur, l'aumônier en quelque sorte du roi, qui se trouve à Berlin, et le petit-fils de Comenius, le grand homme de Dieu, n'est-ce pas, qui était un des amis de Luther, et c'est lui qui va servir, n'est-ce pas, au prince, n'est-ce pas, pour lever l'interdiction qui repose sur Zinzendorf. Grâce à lui, en 1737, il reçoit la consécration par l'évêque luthérien, et il reçoit même le titre d'évêque des Moraves. Non seulement il devient un pasteur, c'est pour Olivier? Ah d'accord, bon. Mais en même temps, il devient l'évêque des Moraves, exilé donc en Allemagne, avec mission de défendre les droits de tous les petits groupes de chrétiens évangéliques indépendants. Zinzendorf ne pouvait pas rêver mieux. Vraiment là, il a vu la main de Dieu et une intervention extraordinaire de Dieu, alors que là, c'est le revirement total à 180 degrés, n'est-ce pas, qui va lui permettre donc de poursuivre son œuvre sans aucune entrave. Il en profite. Et Zinzendorf, qui est assez fougueux, n'est-ce pas, eh bien, se remet à prêcher de plus belle, bien sûr. Et là, dans des prédications où il attaque la religion tranquille, douillette, formaliste, qui est celle justement de l'Église luthérienne de son temps. Bon, et alors, ça passe très bien. Ça passe très bien parce qu'il a l'appui des princes. Pour lui-même, n'est-ce pas, il n'a pas de plan particulier. Son but est de se laisser guider par Dieu et il a une grande foi dans la direction de Dieu, même si il n'a pas la direction du Saint-Esprit, telle que nous la connaissons. Nous avons vu qu'il avait un moyen particulier de connaître la direction de Dieu, qui était de tirer des versets. C'est pas, bon, on en a parlé la dernière fois, je n'y reviens pas. C'est pas à rejeter entièrement, mais c'est toujours évidemment dangereux d'en faire un système. Et son action, n'est-ce pas, il se fixe deux buts en quelque sorte. L'évangélisation des païens, bien sûr, ça finalement c'est toujours la tâche de l'Église. Et puis deuxièmement, un autre but tout à fait intéressant, l'unité de l'Église. Zinzendorf est un homme qui a une vision de l'Église universelle et le souci justement de l'unité de l'Église. Voyez-vous, c'est très intéressant de voir que les premiers évangéliques n'étaient pas des gens qui étaient des schismatiques, des gens qui étaient des diviseurs, contrairement aux évangéliques modernes, bien souvent. Mais c'était des gens qui étaient conscients des enjeux et qui étaient conscients, n'est-ce pas, que leur action, inspirée par le Saint-Esprit, pouvait être mal comprise, mal interprétée et avoir plutôt une action de division qu'une action de rassemblement. Alors que le Saint-Esprit rassemble, ça c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Et quand un homme est véritablement spirituel, eh bien c'est quelque chose qu'il comprend. Et il a le souci de l'unité véritable. Bien sûr, pas de l'unité à n'importe quel prix. Pas de l'unité au détriment de la vérité. Si vraiment, eh bien, pour maintenir la vérité, il faut casser, on casse. Mais on ne fait vraiment qu'en dernier ressort, que comme le point ultime. Après avoir fait tous ces efforts, comme d'ailleurs la Bible le dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes et bien entendu essentiellement avec les frères en la foi. Alors, le but de Zinzendorf, quand il parle d'unité, c'est pas que tout le monde devienne comme lui, mais il pense, n'est-ce pas, que dans le concert de l'Église universelle, l'Église morave a quelque chose à apporter. Il ne s'agit pas de faire en sorte que tout le monde devienne morave. Non, ce n'est pas son but. Mais que chacun reçoive quelque chose, en quelque sorte, de l'œuvre qui est la sienne. Et c'est ainsi qu'en 1731, il est à nouveau en visite à la cour du Danemark. Et là, ça va être un tournant très important, aussi dans la vision de Zinzendorf, et notamment dans sa vision de l'Église universelle. À la cour du Danemark, en effet, il rencontre un jeune noir, c'était pas courant à cette époque-là, même si c'était déjà le début de la colonisation, n'est-ce pas? Or, il se trouve que ce jeune noir-là est chrétien. Zinzendorf est très intéressé de voir un sauvage, en quelque sorte, comme on disait à cette époque-là, n'est-ce pas, qui croit en Jésus-Christ. Et soudain, n'est-ce pas, la conversation qu'il a avec ce garçon ouvre devant lui une perspective qu'il n'avait pas vue. Finalement, quand il dit évangélisation des païens, ce n'est pas simplement des païens qui sont autour de lui, mais c'est l'évangélisation, comme l'a dit Jésus, jusqu'aux extrémités de la terre. Et Zinzendorf est un des premiers protestants, on peut dire, pas seulement évangélique, mais un des premiers protestants, qui va avoir la vision missionnaire. La vision de l'évangélisation jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'était une chose que les réformateurs n'avaient pas eue. Les réformateurs, et ça c'est quelque chose qui nous frappe, n'est-ce pas, les réformateurs n'avaient aucune vision missionnaire. Pour eux, c'était des réformateurs, point. Ils entendaient réformer l'Église occidentale, point. Et Zinzendorf, qui était né dans la mouvance luthérienne, ne s'était jamais posé la question de l'évangélisation des païens. Et puis soudain, cette rencontre avec ce jeune noir bouleverse absolument sa vision des choses. Et comme c'est un homme de Dieu, il se laisse remettre en question. Alors, il invite le jeune noir à l'accompagner à Erneut. Et là, donc, pendant plusieurs semaines, il s'entretient avec cet homme avec lequel il partage ce fardeau. Et bien entendu, en tant que membre de ce peuple-là, le jeune noir, lui aussi, a un fardeau pour son peuple. Alors, il y a des atomes crochus entre lui automatiquement et puis Zinzendorf. Et finalement, après avoir prié, cherché la face de Dieu, Zinzendorf est convaincu que le Seigneur leur demande, comme il dit, d'étendre les cordages. Et puis de s'occuper justement de ces gens qui meurent sans l'Évangile dans des pays qui n'ont jamais entendu parler de l'Évangile. Et finalement, au bout de cette retraite spirituelle, parce que c'est une véritable retraite spirituelle qu'il passe pour chercher la face de Dieu, chercher sa volonté en ce qui concerne justement ces pays lointains, deux frères sentent l'appel de Dieu pour partir au nom de la communauté aux Antilles. Le premier objectif que le Seigneur a mis sur leur cœur, c'est les Antilles. Et ces deux premiers missionnaires moraves, si vous voulez, s'appellent Léchard Daubert et David Neisman. Je sais pas comment on dit ça. Neisman. Comment on dit ça, Colette? Voilà, bon. Alors, le premier était potier, le deuxième charpentier. Et là, donc, il décide de tout abandonner et de se rendre là-bas. Alors, Zinzendorf accompagne, donc, avec le jeune noir, plus les deux candidats missionnaires. Il retourne chez le prince du Danemark, qui accepte de les soutenir parce qu'ils ont besoin d'un soutien. Et c'est ainsi qu'en 1732, les deux premiers missionnaires moraves débarquent dans l'île de Saint-Thomas, aux Antilles, où ils s'installent, et ils vont commencer une œuvre missionnaire. Deux années plus tard, il y a un autre objectif missionnaire se dresse devant la communauté d'Ernut. Alors là, on est vraiment tout à fait aux antipodes. Le but, cette fois-ci, c'est le Groenland. Voyez-vous, c'est assez éclectique, mais ils ont senti sur leur cœur la nécessité d'envoyer donc deux missionnaires qui vont s'installer au Groenland. Puis, à nouveau, une autre île des Antilles, Sainte-Croix, où d'autres missionnaires vont aller, et puis ensuite les Indiens d'Amérique. C'est l'époque, n'est-ce pas, de l'expansion en Amérique. C'est le début de l'évolution qui va amener la création des États-Unis. Et les rapports qu'ont les missionnaires qui sont près de l'Amérique, bien entendu, aux Antilles, certains s'y rendent d'ailleurs, n'est-ce pas, et soudain, ils se rendent compte avec effarement que les Blancs qui sont installés là-bas, dont certains sont chrétiens, ne se soucient absolument pas du salut de l'âme des Indiens. Hein? Au contraire, ils les combattent, voire ils les exterminent. Et soudain, Zinzendorf, les missionnaires qui rentrent et qui envoient des rapports à Zinzendorf, lui font part de cette situation terrible de ces Indiens, n'est-ce pas, qui sont pourchassés comme des bêtes et dont personne ne se préoccupe, alors que ce sont des êtres humains comme les autres et qu'eux aussi ont le droit d'entendre l'Évangile et ont le droit d'être sauvés. Alors Zinzendorf décide d'envoyer des missionnaires pour évangéliser les Indiens. Il va avoir des plans très très ambitieux en ce qui concerne les Indiens. Et c'est ainsi que deux autres missionnaires, deux ans plus tard, vont se rendre dans les colonies américaines avec le but d'établir des contacts avec les Indiens dans le but de les évangéliser. Par conséquent, en l'espace de quelques années, l'œuvre d'Ernut, qui était limitée à cette petite communauté, enfin cette petite communauté, cette communauté importante quand même, mais géographiquement limitée, soudain va s'étendre jusqu'aux extrémités du monde, connues de, pratiquement, n'est-ce pas? Et soudain, donc, Zinzendorf se trouve obligé de coordonner des œuvres qui sont situées dans des pays extrêmement lointains. Alors, comme Zinzendorf est un homme qui a la plume facile et qui écrit très, 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 très bien, il va être le premier à écrire pour, en quelque sorte, tous les missionnaires et tous les chrétiens, n'est-ce pas, qui dépendent, en quelque sorte, de lui dans les différents champs missionnaires où il a envoyé des hommes, n'est-ce pas. Il va écrire les fameux calendriers à effeuiller qui existent encore aujourd'hui. Bon, c'est lui qui a lancé la pratique de ce calendrier. Voyez-vous, nous vivons sur l'héritage de ces gens-là, même parfois sans nous en rendre compte. Alors, il écrit lui-même et il appelle ça la bonne parole du Seigneur. Et ça permet à tous ces gens-là de garder un contact, en quelque sorte, avec l'Église mère. Le champ missionnaire va encore s'étendre. Après les Indiens d'Amérique du Nord, il va envoyer des missionnaires pour les Indiens d'Amérique du Sud, au Suriname, par exemple, et puis en Russie même. Pourquoi la Russie? Eh bien, tout simplement parce que les Moraves sont des gens qui sont slaves, après tout, et qui ont aussi des contacts avec la Russie. Zinzendorf aura 12 enfants, dont un certain nombre mourront, souvent jeunes d'ailleurs. Et c'est ainsi que un certain nombre de ses enfants, dont l'aîné, nous avons entendu parler, va rejoindre son père à l'âge adulte, n'est-ce pas, dans l'œuvre de Dieu, et va se mettre à le seconder extrêmement efficacement. En 1738, un drame éclate. Plusieurs des missionnaires qui sont à Sainte-Croix meurent des fièvres. Il est évident que là-bas, l'hygiène n'était pas encore développée comme c'est aujourd'hui et les climats étaient souvent insalubres. Et ça provoque un remous dans la communauté parce que finalement, un certain nombre de gens qui n'ont pas la vision missionnaire, même à Ernut, même au sein de la communauté, parce que, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas courant dans la piété de ce temps-là. Souvenons-nous, par exemple, que au début du siècle suivant, quand William Carey, lui aussi, aura la vision missionnaire pour l'Inde, et qu'il ira voir son pasteur, qui pourtant est baptiste, en lui demandant qu'est-ce que nous faisons, en quelque sorte, pour évangéliser cet immense pays de l'Inde. Et son pasteur lui répondra, mon cher, le jour où Dieu voudra sauver les Indiens, il le fera sans toi et sans moi. ça nous paraît étonnant qu'on puisse raisonner comme ça. Mais c'était la mentalité à cette époque-là dans l'Europe protestante. Alors, un certain nombre de gens n'ont pas vu d'un bon œil l'expansion missionnaire. Et quand on apprend que des missionnaires meurent de cette manière-là, Zinzendorf est accusé. Il dit, c'est de votre faute, c'est à cause de toi que ces gens sont morts. S'ils étaient restés ici, ils seraient encore des nôtres. Tu les as envoyés à la mort. On ne peut pas continuer dans cette aventure insensée. Alors Zinzendorf, qui a pour principe, n'est-ce pas, de ne pas demander aux autres ce qu'il n'a pas effectué lui-même, dit, bon, ben, puisque c'est comme ça, c'est moi qui vais partir. Et Zinzendorf quitte Ernut et il se rend à Sainte-Croix pour remplacer les deux missionnaires qui sont morts là-bas. Quand il arrive là-bas, les choses se sont encore détériorées. En effet, plusieurs des membres de la communauté, donc des indigènes, des gens de la communauté, ont été emprisonnés à cause de leur foi. Pourtant, c'est une colonie européenne, mais précisément, on se demande qui sont ces gens-là. Après tout, une espèce de secte mal située. Et le gouverneur local, qui est un gouverneur anglais, les a mis en prison, tout simplement. Et voilà que, soudain, débarque dans l'île de Sainte-Croix, qui est une petite île perdue au bout du monde, dont personne ne se soucie, dans laquelle il y a des planteurs qui exploitent la main-d'œuvre locale jusqu'à la faire mourir, n'est-ce pas, pour la culture du rhum et de toutes les épices qu'on envoyait ensuite en Occident, n'est-ce pas. Et voilà que le gouverneur voit soudain débarquer dans son île le comte de Zinzendorf lui-même, un grand personnage. Il n'en revient pas. Comment un grand personnage peut-il s'intéresser soudain à cette île-là? Alors, Zinzendorf se rend directement chez lui. Il dit, voilà, je suis le comte de Zinzendorf, vous allez me faire le plaisir de libérer immédiatement tous ceux que vous avez emprisonnés. Mais comment? Mais bien sûr, mais à l'instant même. Et c'est ainsi donc que les frères et sœurs emprisonnés retrouvent leur liberté. Zinzendorf reste quelque temps. Puis il rentre chez lui, bien entendu, parce qu'il a une autre vocation que celle-là. Mais il a prouvé, donc il était sur le terrain, il l'a tellement prouvé que quand il revient, il est lui-même atteint de la malaria. Mais grâce à son geste courageux, le travail missionnaire va se poursuivre. Il n'y aura plus de contestation désormais, n'est-ce pas? Et bientôt, il y aura jusqu'à 13 000 baptisés. En l'espace de quelques années, 13 000 baptisés dans les Antilles. Zinzendorf, retour des Antilles, a un autre fardeau sur le cœur. Bon, il a eu le souci de l'âme de ces gens-là, mais il a aussi le souci de leur situation matérielle, de leur corps. Souvent, ces gens sont, les Noirs là-bas en particulier, sont des esclaves. Vous savez, c'est l'époque du fameux commerce triangulaire, c'est-à-dire la traite des Noirs. Et l'esclavage est florissant là-bas dans les Antilles. Et en tant que chrétien, bien entendu, Zinzendorf se rend compte que l'esclavage est anti-biblique et qu'en tant que chrétien, il ne peut pas accepter cela. Alors, Zinzendorf va prendre en main la cause des Noirs, la libération des esclaves. Et son premier devoir, dès qu'il rentre des Antilles, c'est de se rendre chez son cousin, le prince de Danemark, pour lui faire un rapport de ce qui se passe là-bas, et puis leur dire « c'est inacceptable, il faut absolument que vous, en tant qu'homme politique, vous interveniez, vous jetiez tout votre poids dans la balance pour faire libérer ces malheureux et faire cesser cet horrible commerce du bois d'ébène, c'est-à-dire cette horrible traite des Noirs. Dans le même but, il se rend à Londres, qui est le grand centre de ce commerce-là, et en Hollande. Et bien entendu, il profite de son voyage à Londres en particulier pour prêcher l'Évangile. D'ailleurs, il est connu, on lui demande de prêcher l'Évangile. Et un certain nombre de communautés vont s'organiser à la suite de son passage sur le modèle de la communauté d'Ernut. Et bon, Zinzendorf accepte de quelque sorte de créer une espèce de fellowship morave, n'est-ce pas, qui non seulement se répand dans les pays qui ne sont pas encore évangélisés, Groenland, Antilles et autres, n'est-ce pas, mais également dans les pays évangélisés, c'est-à-dire Angleterre, Hollande, et puis aussi pays baltes qui ne sont pas loin de la Saxe, bien sûr, où il va y avoir donc des groupes qui vont se créer. Ça n'est pas du goût de tout le monde, et c'est ainsi que dans les pays baltes, notamment, il va être emprisonné trois semaines avec son fils Christian Renatus. Bon, comme c'est quand même quelqu'un d'important, on va le libérer assez vite. Mais justement, ce voyage aux Pays-Baltes va lui ouvrir à nouveau les portes de la Russie, et en Russie aussi vont se créer des communautés moraves, qu'on commence à appeler de cette manière-là à ce moment-là. Quelque temps plus tard, il va repartir pour l'Amérique. Cette fois-ci, il est accompagné de sa fille qui est âgée de 16 ans. Et il va se rendre à nouveau aux Antilles, voir un petit peu où en est le travail missionnaire là-bas. Et puis ensuite en Pennsylvanie, toujours avec cet objectif qui ne l'a pas quitté de l'évangélisation des Indiens. Et il trouve là-bas en Pennsylvanie, donc dans les colonies américaines, 20 000 chrétiens d'origine allemande. Mais à sa grande stupéfaction, ces gens-là n'arrêtent pas de se combattre. Ils sont divisés en différentes dénominations. Et il y a des rivalités. Zinzendorf, qui est un homme qui a la vision de l'unité de l'Église, n'est-ce pas, ne peut pas accepter ça. Surtout que c'est des Allemands. Il les a par conséquent très à cœur. Et il dit, je ne peux pas m'occuper des Indiens aussi longtemps que je ne me suis pas occupé des Allemands d'abord. Alors, il prend contact avec ces gens-là et il décide de les convoquer en synode extraordinaire pour essayer de trouver un point d'accord. C'est pas facile. Mais finalement, Zinzendorf arrivera à faire accepter à ces gens-là une espèce de modus vivendi qui feront qu'ils se combattront moins, disons quoi. C'est pas le succès total, mais c'est pas non plus l'échec. Et c'est alors que donc il va se tourner vers les Indiens après avoir accompli donc cette tâche. En 1741, il s'installe au milieu des Indiens dans une tente. Exactement comme un Indien, il va mener la vie des Indiens grâce à un de ses amis qui a déjà gagné leur confiance et qui accepte de le recevoir au milieu d'eux. Et Zinzendorf a un projet grandiose, c'est de créer des communautés comme celle d'Ernut, à la fois composé d'Indiens et d'Allemands. Faire vivre en symbiose les Allemands, qu'il a réussi à réconcilier plus ou moins, et puis les Indiens qui seraient ainsi évangélisés. Bon, le projet est un petit peu trop ambitieux et ça ne réussira pas. Mais en fait, on peut dire que Zinzendorf est le premier missionnaire parmi les Indiens. Le seul qui jusqu'alors ait pris la fait et cause pour ces gens-là. Néanmoins, de son effort d'évangélisation parmi les Indiens, naîtront deux communautés du type de celle qu'il avait envisagée, qu'il va appeler de deux noms bibliques, la communauté de Bethléem et la communauté de Nazareth. Vous voyez, c'est bon. C'est une véritable communauté, avec une exploitation agricole commune, de l'artisanat, de l'industrie, etc. Et ça va marcher plus ou moins. Bien entendu, le problème, c'est qu'au bout d'un temps, il y aura beaucoup plus d'Allemands que d'Indiens. Le nombre des Indiens va diminuer avec le temps, puis finalement, ce ne seront plus que de communautés allemandes. Mais enfin, bon, c'est des communautés moraves qui vont subsister, qui sont quand même un témoignage au milieu de ces Indiens. En 1742, il retourne en Allemagne, au moment où Frédéric II de Prusse vient de monter sur le trône. Frédéric II, le roi philosophe, le despote éclairé, l'ami de Voltaire, de tous les philosophes du XVIIIe siècle. Le 25 décembre 1742, juste après son accession au trône, Frédéric II accorde aux Moraves la liberté totale de culte et de conscience. Et il n'y a plus absolument aucune restriction à leur action. Ils peuvent s'établir librement dans toutes les différentes parties du royaume et ils n'ont plus à dépendre de l'Église luthérienne. Ils ne sont plus obligés de passer par elle. Il interdit que l'on continue à répandre des calomnies contre les Moraves et il fait cesser les attaques qui viennent contre eux et qui avaient essentiellement, jusqu'en 1748, pour origine la ville de Strasbourg, qui était une ville calviniste, n'est-ce pas, et qui était un centre anti-Morave terrible. Et comme Strasbourg est sous la coude des Prussiens à cette époque-là, bon, ben, Frédéric fait cesser toute cette propagande qui était originaire de Strasbourg. C'est l'époque où aussi Zinzendorf va avoir une autre vision, outre celle qu'il a déjà reçue de Dieu et qui sont déjà assez extraordinaires pour un seul homme, n'est-ce pas? Zinzendorf redécouvre, sous l'influence d'ailleurs des chrétiens anglais avec lesquels il était en contact quand il avait fait ses voyages en Angleterre et en Amérique aussi, n'est-ce pas? Surtout en Angleterre, c'est la vision de la parousie, c'est-à-dire que le Seigneur revient. Ça aussi, c'est une vérité qui avait été quasiment oubliée, des réformateurs. Et voilà que justement, Zinzendorf va être un des premiers à remettre en honneur cette vérité essentielle, cardinale de l'Évangile. Et fort de cette vision, il décide de créer une autre communauté dans la ville de Viterbo. Viterbo, ça s'écrit Viterau, comment ça se prononce? Ouais, c'est ça. Il veut créer là un centre spirituel qui soit une véritable oasis, c'était son mot. Et le but, n'est-ce pas, est grandiose aussi, mais là, vraiment utopique. Même les meilleurs hommes sont des hommes, hein, ils ont leurs points faibles, ils ont leurs erreurs, ils font leurs erreurs. Ça va être la grande, grande erreur, la plus grande erreur que Zinzendorf ait faite dans sa vie, n'est-ce pas? Un échec total, cuisant et retentissant. Mais le but était tout simplement l'unité. L'unité, n'est-ce pas? L'unité de non seulement de tous les chrétiens, de toutes les dénominations, mais également l'unité avec les païens. C'est là que ça déraille, forcément. Déjà, faire l'unité avec des chrétiens qui ne sont que des chrétiens de nom, c'est évidemment complexe. Alors là, avec des païens qui sont véritablement païens, c'est autre chose. Alors, il achète un vieux château. Et là, donc, il va sacrifier, en quelque sorte, à l'esprit du temps. L'esprit du temps, c'est-à-dire les Lumières et le romantisme. Le romantisme qui est la conséquence, en fin de compte, des Lumières. Et vous savez, le romantisme, comme vous le savez certainement, est caractérisé par toute une espèce d'exaltation des sentiments, au détriment de la raison, justement. C'est un petit peu ce que nous disions hier. Et finalement, le courant actuel que nous avons dénoncé hier dans notre traite spirituelle, eh bien, est aussi le résultat du romantisme de la fin du 18e et surtout du 19e. Surtout le romantisme allemand était très poussé avec des gens comme Goethe, etc., puis ensuite des grands musiciens romantiques. Et là, une espèce d'exaltation des sentiments au détriment de la raison, donc au détriment de la doctrine, au détriment de la réflexion. Et puis, donc, il va y avoir une espèce de piété à l'eau de rose qui va se développer, qui est un petit peu le point faible du piétisme. Le piétisme a beaucoup de bonnes choses, nous l'avons vu il y a un instant, mais il y a aussi ce mauvais côté, n'est-ce pas, cette espèce de piété qui était typique du XIXe siècle, tant d'ailleurs en milieu protestant qu'en milieu catholique, dont on voit parfois un petit peu des traces même dans un recueil comme le recueil des ailes de la foi, qui est essentiellement un recueil qui a été composé au siècle dernier. Et vous avez peut-être remarqué comme moi que parfois dans certains des cantiques des ailes de la foi, il y a quelque chose d'un peu mièvre. Il y a une piété parfois un petit peu mièvre, un petit peu sentimentale au mauvais sens du terme, quoi. Hein. Alors là, il y a une espèce de mystique qui va naître dans cette ville de dans ce château de Wittereau là-bas. Et alors, par exemple, on va sombrer dans la puérilité la plus grotesque, quoi. Par exemple, en milieu catholique, c'est l'époque où naît le culte du Sacré-Cœur, le Sacré-Cœur de Jésus. Bien, si vous voulez, on va retrouver le pendant de ça dans le piétisme, avec l'adoration des plaies de Jésus. Alors, on adore les plaies de Jésus. Puis alors après Jésus enfant, vous savez, le petit Jésus, ça aussi c'est typique du romantisme. Hein. Alors les petits pieds de Jésus, alors on adore les petits pieds de Jésus. Enfin, vous voyez le style, quoi. C'est ça déraille, quoi. C'est le déraillement total. Alors il compose des cantiques à cette période-là qui sont pleines de mièvreries douceâtres, de très mauvais goût de ce type-là, quoi. C'est une religion du cœur, qui est très apprécié par les romantiques de l'époque, évidemment. Mais alors aussi, il y a une autre déviation dans laquelle il tombe à cette période-là. C'est finalement celle à laquelle nous assistons aujourd'hui. Les tableaux vivants, les pièces de théâtre, les mimes et les choses semblables. C'est pas nouveau, vous voyez, on a l'impression qu'on est en train de découvrir des choses extraordinaires et nouvelles, mais comme dit l'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ce qui était, n'est-ce pas, c'est ce qui sera. Et quand ils ont dit, voilà quelque chose de nouveau, eh bien non, ça existait déjà dans le passé. Bon, ben voilà. Et puis alors aussi, c'est l'époque où il a des extases, n'est-ce pas, des visions vraiment abracadabrantes, dans lesquelles il n'y a vraiment rien de Dieu, quoi. Et alors là, un certain nombre de ses collaborateurs se rendent compte que c'est en train de déraguer. Et notamment, un de ses collaborateurs londoniens fait le voyage exprès depuis Londres pour lui dire « ça va plus, quoi. Là, c'est le déraillement total. » Et seulement, le problème, c'est que ces déraillements-là, ces excès, vont fournir des armes à tous les adversaires du piétisme et redonner donc un nouvel essor, si vous voulez, à toute cette campagne de calomnie auquel Frédéric II avait mis fin. Ça repart de plus belle. Et en quelque sorte, là, il coupe des bâtons pour se faire battre, il n'y a pas de problème. C'est l'époque où John Wesley vient de se convertir et cherche Dieu de tout son cœur. Les deux réveils sont presque contemporains, enfin ils sont simultanés, on aura l'occasion d'y revenir quand on parlera de Wesley. Et Wesley donc s'est converti en fin de compte dans des groupes moraves, dans des groupes piétistes qui se trouvaient en Angleterre. Alors, bien entendu, dès qu'il est véritablement converti, il éprouve le besoin de prendre contact avec le promoteur du mouvement lui-même. Et il fait le voyage depuis l'Angleterre jusqu'en Allemagne, où il rencontre Zinzendorf. Malheureusement, Zinzendorf est dans cette période de déraillement. Et Wesley est considérablement déçu. Et là, Wesley décide de se séparer à fond du piétisme, il a peut-être été un peu vite. Il aurait peut-être dû attendre, mais là, donc, il coupe définitivement avec le piétisme, et donc il va lancer un mouvement qui sera parallèle au piétisme, mais qui n'aura plus de contact, n'est-ce pas ? Et c'est dommage que les deux réveils n'aient pas finalement collaboré l'un avec l'autre, mais malheureusement, c'était l'œuvre du diable à ce moment-là qui a fait que ces deux choses-là ne puissent pas véritablement s'unir, comme certainement l'aurait fort souhaité Zinzendorf lui-même. Et donc, en 1751, l'échec de l'oasis de paix est patent. Et Zinzendorf comprend que là, il a fait fausse route. Il décide de mettre fin à l'expérience. Le château est vendu, l'oasis est liquidé et il retourne tout simplement à Erdurt. En 1750, nous sommes donc au milieu du siècle, l'époque où les Lumières battent leur plein. C'est l'époque de l'essor des sciences, c'est l'époque où Newton découvre les fameuses lois qui portent son nom, Leibniz, Liré, qui est un zoologue, biologiste, etc. C'est l'époque de Marie-Thérèse d'Autriche, c'est l'époque de Goethe, et c'est aussi l'époque de Jean-Sébastien Bach. D'ailleurs, Jean-Sébastien Bach, qui n'échappe pas toujours non plus à cette espèce d'atmosphère romantique un peu mièvre, n'est-ce pas? Par exemple, si vous lisez les livrets des cantates de Bach, si la musique est toujours extraordinaire, les paroles sont parfois bon, un peu puériles de ce type-là aussi, quoi, hein. Et alors, Zinzendorf, qui est encore mal remis de sa crise mystique, là, est encore à faire des excentricités. Par exemple, il écrit des lettres à Jésus, puis les jette par la fenêtre pour que le vent les emporte, quoi, les emporte au ciel. Vous voyez le style, quoi, hein, pour qu'elles lui parviennent. C'est l'époque où il est assez désargenté et il décide à ce moment-là d'abandonner la direction de la communauté, enfin des communautés. En fait, les communautés, il a réussi à les structurer, elles sont unies entre elles, mais par des liens fédératifs. Ce n'est pas, il n'y a pas une hiérarchie, chaque communauté est autonome, et puis il y a des liens fraternels qui les unissent. Il y a un synode qui règle les questions d'intérêt général, qui se réunit de temps en temps. Et bon, Zinzendorf est arrivé à cette structure-là après de longues études, n'est-ce pas, de longues réflexions. Et voilà, quand il a mis en place cette structure, voilà à peu près ce qu'il a dit. Ça me paraît très sage, très intéressant. Il dit: Dieu n'est lié à aucune méthode, et l'homme doit pouvoir s'adapter à toutes les méthodes. C'est ce que nous disions hier. Quand dans ce que la Bible ne dit pas, bien, il y a liberté, et c'est à chacun de s'adapter au mieux. Et en fin de compte, si vous voulez, quand Zinzendorf abandonne la direction de la communauté, eh bien, des communautés, les communautés sont autonomes, elles peuvent se diriger elles-mêmes. Et seulement, en fin de compte, Zinzendorf, bien qu'officiellement il ne soit plus le responsable, continue à l'être dans les faits. Finalement, on le consulte, on l'interroge, n'est-ce pas? Et finalement, quand Zinzendorf mourra, personne n'aura la stature et l'envergure suffisante pour le remplacer, justement, pour faire le lien entre ces différentes communautés. Entre-temps, n'est-ce pas, à partir de pendant la première moitié du siècle, on peut dire que l'influence du piétisme s'est fait sentir dans toute l'Europe. Il y a des branches à Oxford, en Suisse, en Bohême, en Moravie, en Scandinavie. Seuls les pays catholiques, forcément, sont hermétiques, quoi, et ne permettent pas l'installation du piétisme. Pourtant, Zinzendorf ne se laisse pas décourager pour autant, et notamment, il va tenter quelque chose du côté de la France. Dès 1730, par exemple, il prend contact avec Antoine Court, qui l'invite à venir l'aider pour la reconstitution du protestantisme français. Et Zinzendorf envoie des missionnaires en France pour aider à cette reconstruction-là, des gens qui sont là évidemment au péril de leur vie et qui vont œuvrer en particulier dans le Midi à leurs risques et périls. Puis ensuite, c'est avec Paul Rabaut qu'il prend contact et il envoie des missionnaires à Nîmes, à Bordeaux, en Saintonge. Ils se sentent très concernés par les prisonnières de la tour de Constance, alors que ces dernières sont souvent abandonnées par même les protestants français. Zinzendorf ne cesse de prier pour elles et de faire prier pour elles, n'est-ce pas, tous les jours dans les réunions de prière qu'il y a à la communauté d'Erfurt, n'est-ce pas. On prie pour les prisonnières de la tour de Constance. Il leur envoie des secours, des subsides, autant que faire se peut, de l'argent, de quoi les aider dans leur situation. Il fait des pétitions à droite, à gauche. Il remue ciel et terre, comme il a fait pour les Indiens, comme il a fait pour les Noirs, pour la libération des prisonnières de la tour de Constance. C'est alors que si Zinzendorf, bon, qui est revenu de ses errements, prend conscience de cet essor des sciences qui est un des grands phénomènes de ce XVIIIe siècle. Au début, pendant cette période où il était dans ce fameux château d'Oasis de Paix, là, il a été plutôt à fond pour le mouvement des Lumières, n'avait pas encore fait le tour et s'était pas rendu compte vraiment de tous les dangers qu'il impliquait, ce qui d'ailleurs l'avait entraîné dans ces excès que nous avons vus. Et puis là, quand il fait le bilan de son échec, n'est-ce pas, c'est un homme intelligent, il va jusqu'au fond de sa réflexion, il pousse sa réflexion et se rend compte que là, il a fait fausse route complètement. Et notamment, n'est-ce pas, il comprend qu'il y a quelque chose de redoutable, non pas dans les sciences elles-mêmes qui sont en train de naître, mais, si vous voulez, dans la philosophie qui les sous-tend. Et alors, il va commencer toute une campagne, notamment auprès des jeunes, des différentes communautés dont il est responsable, pour les mettre en garde justement contre la séduction des lumières et la séduction justement qui peut naître à partir justement des sciences. Il souligne le fait qu'il faut se garder, n'est-ce pas, d'être ébranlé par les affirmations des sciences qui commencent à cette période-là à remettre en cause, n'est-ce pas, les affirmations de la parole de Dieu. Et il dit ceci, n'importe comment, les connaissances scientifiques sont forcément limitées. Par conséquent, on ne peut pas s'arrêter à des connaissances partielles, des connaissances d'un moment, que peut-être des découvertes futures viendront complètement infirmer. Et c'était une position très juste, très sage qu'il avait là. Alors, il est toujours hanté par le souci de l'unité des églises et il va tenter de créer une organisation internationale de ce qu'il appelle les vrais chrétiens, qui acceptent de s'organiser dans les différentes églises où ils sont, sans les inviter à sortir de leurs églises, mais à créer à l'intérieur de leurs églises, comme il l'a fait lui-même, des ecclesiolae in ecclesia, des petites églises dans la grande église. Bon, c'est un échec. Les gens ne sont pas prêts à cela, et finalement, après plusieurs années où il a ramé pour aboutir à cela, il renonce. Zinzendorf est aussi un homme qui n'est pas du tout ouvert, n'est-ce pas, à la philosophie des Lumières. Il s'est même fermé à elle, alors qu'il s'y était ouvert à un moment. Mais néanmoins, il est persuadé, n'est-ce pas, que la liberté, telle que les Lumières l'ont mise en évidence, est une notion profondément biblique. Et s'il renie l'ensemble, si vous voulez, des Lumières, il va garder ce souci de la liberté. Et il arrive à cette conclusion, c'est que la liberté telle que la Bible la conçoit, y compris la liberté politique, n'est pas inconcevable ni incompatible avec la notion d'ordre. Dieu est un Dieu d'ordre, mais en même temps, il est un Dieu de liberté. Et Zinzendorf va beaucoup insister là-dessus, bien qu'il soit un aristocrate, bien qu'il soit dans un pays où, en principe, n'est-ce pas, on n'est pas tellement ouvert aux idées qui ensuite aboutiront à la Révolution française. Bon, l'expansion missionnaire se poursuit à partir de 1750, et à la fin de la vie de Zinzendorf, il y aura un membre de l'Église sur 30 qui sera missionnaire. C'est vraiment une œuvre extraordinaire qui part à partir d'Erlut. Zinzendorf est absolument infatigable. Il est sur tous les fronts. Il prêche, il voyage, il écrit. Il a écrit plus de 20 000 pages de tout, n'est-ce pas, à la fois ses calendriers effeuillés, des cantiques, des exhortations, des livres qui circulent à droite, à gauche, etc. Il tente même une nouvelle traduction de la Bible. Il ne la mènera pas bien, mais enfin, il a eu cette pensée-là. Et puis, ainsi, en 20 ans, il y aura 3 000 missionnaires qui vont partir depuis Erlut. Les dernières années de sa vie sont consacrées à des voyages, notamment en Suisse et en Hollande. Et il va s'installer ensuite 5 ans en Angleterre. Il achète une maison là-bas, à Londres, non loin de la Tamise. Et c'est à cette occasion-là aussi qu'il va entreprendre donc tout un travail important de structuration en Angleterre, parallèlement avec le réveil méthodiste, n'est-ce pas? Le réveil méthodiste qui est né justement parce que Wesley a entendu un sermon de Luther qui ainsi l'avait amené à se convertir et qui était lu par justement un disciple de Zinzendorf qui s'appelait Boller. Il crée une colonie morave à Leeds, la ville anglaise de Leeds, et c'est alors qu'en 1752, c'est pas, un terrible drame l'atteint. Christian Renatus, qui est âgé de 25 ans, meurt. Christian Renatus était son bras droit, celui qui était à ses côtés et qui devait logiquement succéder à son père. Et puis, peu de temps après, c'est sa femme qui meurt. Là, donc, deux deuils qui le frappent en peu de temps et qui vont l'ébranler considérablement parce qu'il était très attaché aux siens. Et donc, il rentre et là, il va sombrer dans une espèce de dépression. Il se néglige et finalement, là, ça n'a plus du tout. Peu de temps après, il se remarie. Avec une de ses amies d'enfance. Malheureusement, cette deuxième femme meurt peu après le mariage. C'est l'époque où, entre 1756 et 1757, la guerre fait rage en Allemagne, ce qu'on appelle la guerre de 7 ans, et la Saxe est envahie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que la communauté d'Ernut est tellement connue, même des ennemis, que finalement, personne n'osera intervenir et nuire, n'est-ce pas, à la communauté d'Ernut. Et même en un mois, 34 princes qui sont engagés dans cette guerre vont venir en pèlerinage à Ernut, hein, venir s'y recueillir, venir prier, venir chercher la parole de Dieu. En 1760, il met la dernière main, il arrête, n'est-ce pas, de d'écrire les fameuses paroles et textes, c'est-à-dire les fameux calendriers à effeuiller, et il comprend que pour lui, il a terminé sa course. Il se tient tout simplement dans le recueillement en attendant que le Seigneur le reprenne. Et il meurt le 9 mai 1760. C'est pas vrai. Aujourd'hui encore, il y a de nombreux missionnaires moraves de par le monde. Et c'est un de ses collaborateurs qui s'appelle Spasgenberg. Ça s'écrit S-P-A-G-E. N-E-B-A-R-G, je ne sais pas comment ça se prononce. Alors, S-P-A-G-E-N-E-B-A-R-G. Oui. Et qui lui succède jusqu'en 1792, n'est-ce pas? Et donc, le réveil morave, bien entendu, ne sera plus le même après, c'est évident. Après le départ du successeur, l'histoire du piétisme, peut dire, s'arrête brusquement. Parce que Spangenberg n'est pas du tout à la hauteur de son prédécesseur. Et finalement, le mouvement piétiste va manquer de véritables leaders. Hein. Pas du tout, le fait de Zinzendorf lui-même. Mais Zinzendorf est au contraire un homme très ouvert, comme souvent, comme toujours, sont les véritables hommes de Dieu. Et là, n'est-ce pas, on va vivre, on va se crisper sur l'héritage de Zinzendorf. Et au contraire, alors que la communauté d'Ernut était une communauté ouverte, on va avoir une communauté qui va être fermée, repliée sur elle-même, ce qui va engendrer une espèce de bigoterie. Puis, aussi extraordinaire que ça puisse paraître, avec le temps, le rationalisme va s'introduire également dans le mouvement piétiste, et une espèce d'austérité, mais qui va aboutir à la création d'une espèce de propre justice. On est supérieur aux autres, etc., à cause de cette austérité même. Et alors là, finalement, le piétisme va avoir une mauvaise presse. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas, il a une mauvaise presse, parce que piétisme est synonyme de ces excès-là. Mais ces excès-là ne sont pas les fruits premiers du piétisme, si vous voulez. Et les fruits du piétisme, au contraire, continuent à se faire sentir jusqu'à nos jours, nous l'avons vu. Serait-ce que dans les écoles du dimanche, les calendriers diffusés et feuillés, l'essor des missions, etc., la vision de la parousie et toutes ces choses-là. Enfin, mais là, ça va dérailler, parce que finalement, il n'y a pas eu de successeur qui était à la hauteur, si vous voulez, de poursuivre l'œuvre avec la vision qui était celle du fondateur. Hein, ça, c'est souvent un problème d'ailleurs. Et un autre point faible aussi, c'est que, en insistant sur les sentiments, sur les expériences, on va être amené à négliger la doctrine. Peut-être aussi parce que on avait cette vision d'unité qui fait qu'on était amené à ne pas trop insister sur la doctrine. Alors, finalement, au lieu de redonner vie à la doctrine, il va y avoir une relativisation de la doctrine qui va naître. Et puis, il y a aussi une introspection qui va se créer, n'est-ce pas, à un caractère à la limite morbide, n'est-ce pas, où on est toujours à se diminuer soi-même, s'auto-accuser, etc. Et au lieu de rechercher la véritable sainteté dans la joie, dans la foi, dans l'élan, n'est-ce pas, ça va être quelque chose de pesant, ça va être quelque chose à la limite de l'égaliste qui va naître. Alors, par contre, ce qui va demeurer, c'est l'intérêt pour la Bible. Pour la Bible qui était née dans cette mouvance-là. Mais on ne parviendra pas, justement, parce qu'on n'a pas suffisamment insisté sur l'importance de la doctrine, on ne parviendra pas à faire un barrage au rationalisme. Et quelques années après la mort de Zinzendorf, eh bien, le rationalisme va s'introduire dans le mouvement piétiste lui-même. Quels sont les principaux points sur lesquels la doctrine piétiste insistait? D'abord, comme nous disons hier, sur la dignité de l'homme, créature de Dieu, donc sa liberté et sa volonté en face de l'appel de Dieu. Et quand l'homme est véritablement régénéré, quand il est véritablement rempli du Saint-Esprit, il reçoit de Dieu la capacité de faire sa volonté. Donc, si vous voulez, il y a une possibilité de vivre une vie de sainteté. Seulement, on n'a pas été jusqu'au bout du processus. Et notamment, petit à petit, on adopte l'idée selon laquelle la raison humaine devient le test final de toutes les choses intellectuelles et non plus la Bible, la parole de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, il y a une relativisation de la doctrine. L'homme devient la mesure de tout, donc on est à fond dans le courant du 18e. Hein. Et là, ça déraille, quoi, ça déraille. Alors, parallèlement à ce mouvement des frères moraves, naît ce qu'on appelle le mouvement des frères allemands. C'est en 1708 que naît ce mouvement qui se sépare du luthéranisme officiel et qui se pose la question de savoir si véritablement le Nouveau Testament exige que l'on s'organise en Église. Voyez-vous, là, c'est véritablement un déraillement par rapport à la notion d'Église, un déraillement évangélique, n'est-ce pas, auquel Zinzendorf n'aurait certainement pas souscrit, bien évidemment. D'ailleurs, il n'y a pas eu de contact entre les frères allemands et Zinzendorf. Et donc, après plusieurs mois d'études bibliques, les partisans de cette doctrine concluent qu'effectivement, on n'est pas obligé de s'organiser en Église quand on est croyant, et finalement, ils créent une nouvelle Église, une nouvelle dénomination. C'est ça le résultat. C'est toujours comme ça. Quand aussi Darby, beaucoup plus tard, au siècle suivant, aura déclaré qu'il faut abolir toutes les Églises, la première chose qu'il fait, c'est de créer une Église darbiste. Bon, comprenne qui pourra. C'est comme ça. Alors, le leader de ce mouvement s'appelle Mack, M-A-C-K. Qui est un Allemand, c'est date 1679-1735, qui a été marqué aussi par les premiers courants piétistes qui ont marqué Zinzendorf à la fin du siècle précédent et qui décide, n'est-ce pas, de prendre pour norme uniquement la Bible. Bon, c'est très bien, mais alors l'interprétation de la Bible qu'il donne, évidemment, n'est pas toujours tout à fait ce qu'elle devrait être. Et c'est ainsi que, parce que les piétistes officiels, c'est-à-dire le groupe Zinzendorf, si vous voulez, s'est organisé en Église, eh bien, ils rejettent, ils excommunient, ils anathémisent Zinzendorf et son mouvement, et ça va être un de ces foyers d'attaque permanente, n'est-ce pas, contre le réveil morave, tout au long de cette période-là. Ils rejettent toute confession de foi, parce qu'une confession de foi, selon eux, empêche les croyants de recevoir des nouvelles lumières. Et finalement, ils ont des points communs avec les anabaptistes. Ils refusent de porter les armes, ils refusent le serment, ils refusent le procès. Enfin, en quelque sorte, ils sortent un peu du monde. Ils gardent trois sacrements, le baptême, le lavage, le lavement des pieds, à l'image de ce que nous trouvons dans l'évangile de Jean. C'est intéressant, d'ailleurs, un certain nombre d'autres dénominations s'y vont garder jusqu'à nos jours le lavement de pieds. Bon, ils ont aussi le repas du soir, l'onction des malades, ils ont le voile pour les femmes. Et puis, finalement, ces gens-là vont être persécutés. Et entre 1719 et 1733, ils vont tous émigrer comme un seul homme aux États-Unis. Ce qui sera une bonne chose pour les autres piétistes, n'est-ce pas, qui ainsi auront la possibilité d'avoir les coups des franges. Bon, ils ont connu de très nombreuses divisions, forcément, puisqu'ils n'avaient pas de vision d'église. Ils sont à peu près aujourd'hui encore 200 000 aux États-Unis. Bon. C'est une de ces nombreuses dénominations qui se trouvent aux États-Unis. Donc, si vous voulez, voilà en ce qui concerne le piétisme qui pave la voie, comme nous l'avons vu, à un autre grand réveil, qui sera le réveil wesleyen. Le réveil wesleyen, né en Angleterre, le réveil morave en Allemagne, mais c'est le même courant, c'est la même réaction contre les mêmes excès, si vous voulez, contre la philosophie des Lumières. Et ce réveil de Wesleyen va être aussi précédé par un réveil du même type en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire finalement aux États-Unis, c'est-à-dire dans la partie est des États-Unis. Un réveil dont on parle beaucoup aujourd'hui parce que d'aucuns partisans du réveil de Toronto s'imaginent qu'on peut y trouver là les prodromes du réveil de Toronto. Nous verrons justement en étudiant ce réveil de Nouvelle-Angleterre qu'on en est loin. Alors, on va nous arrêter là ce soir. Si vous voulez, la prochaine fois, nous verrons le réveil de Nouvelle-Angleterre et puis le réveil wesleyen, le réveil méthodiste, si vous préférez. Voilà. Si vous avez des questions à poser sur tout ce que nous avons dit ce soir...